Matière à penser, Frédéric Worms.
Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Marion Muller-Collard, qui est écrivaine et théologienne. Bonsoir Marion Muller-Collard.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci d'avoir accepté de venir discuter ce soir. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. J'espère que je n'ai pas trop perturbé votre tranquillité, votre passage par Paris.
Mais non, enfin, en tout cas, oui, si, c'est un bon dérangement. Les dérangements que j'aime bien. Donc merci pour votre invitation.
Mais il y a un des livres de vous que j'ai lu récemment. J'en ai malheureusement pas eu le temps de lire. Tout ce que vous écrivez récemment, il y a eu plusieurs sources d'écriture dans votre œuvre, mais j'ai lu L'intranquillité, qui est paru chez Bayard, parmi les quelques livres que je vais pouvoir citer. Mm-hmm. Et dans L'intranquillité, vous faites un éloge du dérangement, un éloge de ceux qui viennent vous déranger, du monde qui vient frapper à votre porte. C'est pour ça que je ne me suis pas gêné de m'inclure parmi les perturbateurs.
Vous avez bien fait, ça fait partie des bénéfices secondaires des livres publiés que d'être dérangé, en effet. Je ne sais pas si c'est vraiment un éloge, en tout cas, c'est peut-être une forme d'espièglerie aussi de ma part. Je déteste subir les choses, je suis une insubordonnée et je suis face à quelque chose... face à quoi je n'ai pas trop le choix, en fait, je préfère dire que je l'assume et que j'en suis heureuse. Donc, c'est le cas de l'intranquillité, en fait. Je pense juste que l'intranquillité est quelque chose de fondamental et d'intrinsèque à la vie humaine. Et je me suis un petit peu battue avec pendant des années. J'ai imaginé que le bonheur consistait à avoir résolu toute source d'intranquillité. Et quand j'ai vu qu'elle me dominait, j'ai décidé du coup de m'allier à elle, en fait.
Mais justement, j'ai eu l'impression en lisant ce livre, mais aussi les autres, qu'il y avait une tension quand même très profonde, que d'un côté, pour vous, il faut se retirer quand même dans une intériorité, se préserver un petit peu d'un certain chaos du monde, y compris urbain, parisien ou autre. Vous habitez dans une ferme que vous décrivez merveilleusement dans plusieurs de vos livres. Mais en même temps, justement, ce retrait... vous permet d'accueillir le dérangement et justement de ne pas subir un dérangement extérieur chaotique et constant, mais d'accueillir des choses qui viennent vous déranger, j'allais dire nécessairement profondément.
Mmh. Oui, je pense que c'est une question en fait d'aller-retour. Je crois que fondamentalement, en tout cas moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin en fait pour pouvoir aller dans le monde de m'en retirer aussi. J'ai besoin pour me retirer de savoir que quelque part le monde m'attend et que je peux y retourner. Donc c'est un peu marée haute, marée basse en fait, ma vie sociale, on va dire.
Mais c'est aussi Marion Muller-Collard parce qu'il y a peut-être un bon et un mauvais dérangement. Il y a le fait d'être tout le temps sollicité, tout le temps dans quelque chose qui vient chasser la chose précédente et va être lui-même perturbé par la chose suivante. Puis il y a des choses par lesquelles il faut être dérangé, en fait. Il y a des choses, si on n'est pas dérangé parce qu'il est inadmissible ou parce qu'il est insupportable, ça sert à rien de se retirer du monde.
Oui, exactement, ouais. Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est aussi un peu Hannah Arendt qui est venue me chercher sur ma montagne, dans mon retrait, dans cette espèce de repli qui correspondait à une espèce de sauvegarde, de sauve qui peut, en fait, pour moi, pour ma famille, dans une espèce d'angoisse d'avoir mis des enfants au monde en sachant pas du tout si c'était bien raisonnable, pour eux en tout cas. Et donc voilà, j'en étais là quand j'ai commencé à lire un peu plus sérieusement Hannah Arendt et de prendre conscience en fait que la vie humaine est par essence politique. C'est impossible autrement. Même d'ailleurs, quand bien même on choisirait d'être ermite. Voilà, moi qui ai une attention un peu particulière à la vie monacale aussi, donc je pense qu'elle a un sens profond, mais je pense qu'elle a un sens profond en lien avec le monde. Et que même une vie de retrait est une vie politique en fin de compte. Donc voilà.
Oui, c'est paradoxal sans l'être, parce que Hannah Arendt, effectivement, définit la vie humaine comme vie dans la pluralité, dans l'échange de la parole, dans l'espace public. Mais en même temps, elle a, un peu comme vous, cette question de la pensée comme retrait intérieur. Mmh. Et justement, en fait, la vie humaine, c'est une vie où des subjectivités intérieures s'expriment sur la scène publique. Oui. C'est un espace public où il y a aussi ce retrait de chacun, cette surprise.
Ouais.
Que chaque parole doit peut-être quand elle est humaine justement.
Ouais.
Donc c'est pas si surprenant que ça, même si c'est surprenant de vous voir dire, voilà, dans ma ferme où je voulais me protéger du monde, la lecture d'Anna Arendt a remis la politique.
Oui, alors c'est-à-dire que je suis passée d'une sauvegarde à une réserve, je dirais plutôt quelque chose de l'ordre de la réserve.
Et au départ, vous vouliez vous protéger.
Oui, et maintenant je veux réserver en fait quelque chose qui est de l'ordre aussi de une restructuration interne en fait, comme on se régénère d'avoir donné aussi pour reconstituer quelque chose à penser aussi tout simplement, et puis voilà, sortir du brouhaha et de la conversation à plusieurs, qui est pourtant pour moi vraiment et complètement essentielle pour reconstituer un noyau dur, un noyau intime aussi. On est dans une société qui est très exposante, et je crois beaucoup qu'il faut garder un lieu à soi. Dans le Nouveau Testament, on l'appelle le sod, le secret en fait,
l'intériorité,
la chambre haute. Mm-hmm. On a tous besoin d'un jardin, d'une chambre haute, de quelque chose qui ne nous coupe pas du monde, mais qui nous permet d'y retourner en ayant repris le fil de sa vie en fait, le fil de sa singularité aussi, ouais.
Pour pouvoir ressortir et pour pouvoir partager, parce qu'il y a un moment aussi, je ne sais pas si c'est dans l'intranquillité ou dans le complexe d'Élie, où vous dites s'il y a un chez-soi, il doit avoir le sens d'un chez-nous, c'est-à-dire il ne doit pas être privé au sens de l'exclusion d'autrui, la propriété privée, la vie privée, mais c'est plutôt une intériorité qui vous permet de ressortir. Mais comment est-ce que vous décririez justement ce retrait qui est un accueil en même temps, qui est ouvert à la surprise, à l'étranger, à... Comment est-ce que vous le pratiquez, même très concrètement, en fait? Vous rentrez dans votre ferme, et puis là, vous vous laissez déranger comment, en fait? C'est des coups de fil, c'est des rendez-vous, des lectures?
Bah, je me laisse déranger en écoutant France Culture, par exemple.
Ça, c'est un bon dérangement, mais...
Oui, c'est un bon dérangement, mais c'est un dérangement exigeant, en fait. C'est
le monde qui rentre aussi.
Mais voilà, c'est tout de même ce monde qui ne cesse jamais, en fait, de venir me chercher, nous chercher, chacun, là où nous trouvons, pour entendre des choses déroutantes ou stimulantes. Voilà, c'est aussi des sollicitations diverses et variées, avec toujours cette question du juste, là, cette question de la priorité. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus essentiel? Après quoi est-ce que je cours, en fait? Pourquoi je dis oui? Pourquoi je remplis? Voilà. C'est un rapport aussi au vide, je pense. Enfin, je crois qu'il faut quand même cultiver quelque chose du vide, qu'il faut assumer une place vacante et permanente à nos vies, qui puisse se remplir. Alors des fois justement du dérangement de l'autre, et des fois d'une simple méditation interne en fait, qui doit se poursuivre.
Mais alors, Marion Muller-Collard, je vous ai présenté, et j'ai résumé vraiment, hein, et c'est vous qui me l'aviez demandé, de dire écrivaine et théologienne, dans ce rapport de l'intérieur et de l'extérieur, du retrait et de l'action, du partage. Vous avez quand même une rencontre un peu particulière. Vous assumez aussi le fait qu'à un moment, vous avez été dérangé par l'Évangile, je dirais,
ouais,
par la parole de l'Évangile. Vous êtes à un moment devenu pasteur. Maintenant, vous, en tout cas, vous maintenez ce lien très fort avec la foi protestante, avec la lecture des évangiles. Est-ce que ça, c'est un dérangement comme un autre? Est-ce que c'est une boussole? Est-ce que c'est un ordre dans ce dérangement? Est-ce que c'est une orientation première? Ou bien est-ce que c'est simplement la règle de tout ce va-et-vient, cet aller-retour entre l'intérieur et le monde?
Ouais, c'est une boussole déconcertante en fait, une boussole qui fait perdre le nord, l'Évangile pour moi, puisque c'est vraiment pas un livre de recettes, c'est-à-dire même dans la réflexion éthique, moi je suis vraiment incapable de restituer ce que Jésus dirait.
C'est pas une doctrine pour vous,
voilà,
c'est pas
non,
un
c'est
enseignement
vraiment...
non. en formule, quoi.
Non. En revanche, c'est justement cette espèce d'impossible équilibre entre notre importance et notre inimportance. En fait, c'est le poète Jean Sullivan qui dit « Lorsqu'un homme s'est trouvé, lorsqu'il a saisi son importance et son inimportance, il devient libre, insolent et amical. »
Alors, revenons là-dessus. Donc, son importance, c'est-à-dire que c'est pas la vanité, bien sûr, c'est pas l'amour propre que vous entendez par l'importance.
Non, c'est la part.
De pouvoir compter, de faire quelque chose.
Oui, c'est la part qu'on a à prendre chacun, en fait, quelles que soient nos fonctions, quelles que soient nos identités, quelle que soit notre culture. Je crois que on a part à prendre, sinon, alors, voilà, restons couchés ou c'est même pas la peine de naître, quoi. On a part à prendre. Notre importance se situe pour moi dans le fait que je pense que le fait que vous existiez, Frédéric Worms, ou que j'existe, ou que chacun qui nous écoute existe, modifie le tissu social et le monde d'une manière ou d'une autre, que ce n'est pas indifférent que vous existiez, plutôt que vous n'existiez pas. Voilà.
Et ça, donc, vous le reliez à l'évangile dans la mesure où finalement c'est une sorte de vocation d'appel et l'évangile nous dirait, tu peux faire quelque chose, ton existence a un sens, faut pas se cacher derrière, je sais pas, l'importance des autres, le fait, vous dites dans le complexe d'Élie, le fait que les aïeux ont déjà tout fait, que nous-mêmes on arrive dans un monde trop tard dans un monde trop vieux, on n'arrive jamais trop tard dans un monde qui est toujours un peu jeune pour nous quand même.
Non, mais je...
On peut faire quelque chose, justement.
Ben, je crois profondément, et puis je crois surtout que, en revanche, on est des fois décontenancé par une volonté démesurée de prendre acte des effets de notre présence et de notre action. C'est impossible. En fait, on sera toujours... l'effet de notre existence sera toujours rétroactif, en tout cas dans la perception qu'on peut en avoir. C'est-à-dire qu'on avance, en fait, en ne voyant pas très bien ce que ça peut produire ou ne pas produire. Enfin, c'est ça qui est extrêmement complexe.
Mais qu'on regarde toujours trop loin en arrière ou trop loin en avant.
Trop loin devant, oui.
Et on ne se fait pas confiance au présent pour changer le monde comme on peut.
Bah, c'est-à-dire quelle peut être une éthique de l'instant qui nous rendrait capable de ce courage d'être qui est une expression que j'emprunte au théologien Paul Tillich, qui est un livre très important pour moi, ce livre du courage d'être, qui est celui de participer à l'être, en fait.
Qui est très important pour Ricoeur aussi.
Ouais, tout à fait. Bon,
la confiance dans l'être. Vous croyez que c'est lié au protestantisme, cette confiance dans l'existence, dans soi-même, on a un soi qui n'est pas vaniteux, un amour propre, mais qui est une action concrète.
Ouais. Alors, le lien que je ferai, moi, avec le protestantisme, c'est la grâce, c'est la justification par la grâce. C'est-à-dire de dire, en fait, justement, effectivement, nos existences sont inévaluables. Et quand bien même, 100 ans plus tard, on parlera encore de vos travaux, qu'est-ce que ça nous dira de l'importance de ces choses-là, en fait, du fait culturel, etc. En revanche, ce qui est pour moi très fort dans l'évangile et que le protestantisme reprend très fortement à son compte pendant la réforme, c'est d'affirmer que nous n'avons pas à justifier nos existences. Ce n'est ni à vous ni à moi de justifier votre existence, et encore moins de ma part de justifier la vôtre. Enfin, nous n'avons pas à justifier nos propres existences ni celles des autres. Donc il y a une espèce de tabou, au sens positif du terme, cette tentation à évaluer en fait la pertinence et la justesse, la justice d'une existence plutôt qu'une autre. Et donc cette justification par la grâce, c'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est quelque chose d'impraticable quelque part, parce que nous avons ce réflexe humain de nous justifier par nos actions ou par des mérites, et alors le protestantisme réaffirme que la vanité de cette justification. Et que nous sommes en fait voués à une espèce de confiance presque aveugle de ce qu'il est juste que nous soyons plutôt que nous ne soyons pas.
Ah oui, donc finalement, mais je trouve très profond ce que vous venez de dire, le comble de la vanité, ce serait de vouloir être soi-même la mesure de l'importance de ce que nous faisons. Alors qu'en fait, se défaire de ce jugement-là, le confier à une transcendance ou à un autre, c'est aussi accepter de faire les choses... Voilà, sans savoir comment elles seront jugées, sans savoir, mais justement, ça nous rend confiance de ne pas être la mesure de toute chose, finalement, d'avoir de confier la mesure à autre chose, à quelqu'un d'autre.
Je sais pas si ça me donne de la confiance, mais en tout cas, ça me donne une certaine simplicité, quand je vois que mon petit vélo tourne à vide dans ma tête, en fait, à me demander si c'est vraiment la priorité, faut la mettre ici, si ce que j'ai dit, ce que j'ai fait valait le coup, si c'est, voilà, à un moment donné, ben voilà, ma grande, tiens-toi debout. Et avance. Et c'est de toute façon pas toi toute seule qui va changer le monde, mais c'est pas non plus indifférent que tu sois là et debout. C'est vraiment ce rapport entre cette importance et cette inimportance. Et je la retrouve dans une dimension plus horizontale chez Arendt, avec cette pluralité qui est fondamentale. C'est tout d'un coup de se dire, quand on se sent un petit peu pris par un sentiment de responsabilité, voilà, de le rétrograder à la mesure de la participation de l'autre aussi. Et ça, c'est extrêmement libérateur. Mais en tout cas, moi, ça me reconforte à chaque fois de prendre le risque de ce que Arendt appelle la publicité, c'est-à-dire s'exposer publiquement, ce que je suis en train de faire maintenant, qui est toujours un exercice.
La conversation, c'est ce qu'on fait aussi.
Voilà, mais il y a une conversation, et puis surtout, il y a une conversation avec des personnes qui écoutent et qui ont leur propre responsabilité d'écoutant, et eux-mêmes de voir ce qu'ils vont faire, en fait, ce qui leur convient, ce qui leur convient pas, ce avec quoi ils sont d'accord, pas d'accord. Cette conversation, en fait, c'est un espèce de murmure infini et très, très pluriel. Je trouve ça très beau et très réconfortant.
Alors, je vois bien le point commun que vous faites, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence, Marion Muller-Collard? Parce que pour aller un peu au fond du problème, pour Hannah Arendt, que vous citez très profondément, au fond, le témoin de notre singularité, celui qui nous donne la confiance d'exister, c'est autrui, c'est l'espace public, c'est la cité. Et là, vous la reprenez, mais en même temps, vous invoquez aussi une autre source de confiance, une confiance, est-ce qu'elle est verticale? Je ne sais pas, vous défendez beaucoup l'horizontale, le partage entre les humains, et vous donnez aussi une figure humaine à ce maître de l'évangile, mais en même temps, est-ce que vous pensez qu'on peut concilier ces deux sources de confiance, c'est-à-dire la source évangélique et puis l'action politique, et puis il y en a d'autres, il y a pour vous, je pense, dans tous vos livres apparaissent vos enfants, votre vie familiale, la source intime aussi, est-ce que toutes ces sources de confiance, d'être soi-même dans toutes ces relations, est-ce que c'est la même chose pour vous?
Alors la même chose peut-être pas, mais qu'elle soit conciliable... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence. Enfin, si elle n'était pas conciliable, je ne tiendrais pas en un seul morceau qui me concerne. Donc,
elle converge pour vous.
Oui, il y a quelque chose de convergent, mais qui est aussi de l'ordre de la tension permanente. Et l'enjeu, c'est est-ce que cette tension va me déchirer ou est-ce qu'elle va m'agrandir? Et pour moi, toute ma vie, à la fois intérieur, mais à la fois de penser comme n'importe quel être humain, hein, c'est de veiller à ce que la tension soit source d'élargissement et d'augmentation de soi par les autres, par la contradiction, par la pluralité, par cette altérité insondable pour moi que je vis dans ma vie de foi, et que tout ça, oui, produisent davantage d'élargissement de ma surface d'échange avec le monde, en fait. Voilà, plutôt qu'un écartèlement. Mais ce qui n'empêche pas que je passe vraiment par des moments où je suis plus dans le déchirement que dans l'élargissement. Mais ce sont, voilà, des choses
qui sont peut-être inséparables. Est-ce que quand quelqu'un vient vous déranger, vous parlez aussi dans le complexe d'Élie d'un homme politique qui est venu vous déranger.
Oui.
Et en même temps, et vous avez trouvé chez lui cette même dimension, finalement. Est-ce que vous, justement, vous juger, c'est le mauvais mot, mais est-ce que vous sentez plutôt tout de suite s'il a lui aussi cette tension et cette inquiétude et puis cette capacité d'élargissement, ou bien si au contraire il est fermé comme une huître, incapable de cette parole politique, de cette ouverture à l'autre et de cette ouverture à lui-même que vous décrivez? Donc est-ce que ça, il y a un critère relationnel immédiat, éthique au fond, de dire voilà, il a le même problème que moi, il a la même question, même s'il la pose politiquement, moi religieusement, ou esthétiquement ou poétiquement?
Mais ça se voit sur un corps, sur un visage, je trouve, en fait, ce souci, cette intranquillité, justement. Et donc, je sais pas si c'est un discernement éthique ou presque. Pour moi, c'est de la métacommunication, en fait. Il y a une façon d'être, de se tenir. Ça joue énormément. Moi, j'étais longtemps aumônier d'hôpital. Et donc, il y a la parole, évidemment, mais il y a la parole, il y a les corps qui parlent, en fait. Et il y a cette façon de se tenir, de se mouvoir. d'incliner le visage.
Et quand un corps se ferme, qu'est-ce qu'on fait justement quand on est aumônier dans un contexte où la maladie peut aussi fermer les corps. Vous avez été aussi dans des prisons, je crois, dans des espaces de souffrance. Qu'est-ce qui se passe quand les corps se referment, quand les voies n'arrivent plus à s'ouvrir, quand on se heurte à ça?
Bah, l'immense difficulté est de savoir si ce corps fermé a pourtant besoin que quelqu'un se tienne à côté de lui, ou si c'est un corps qui a besoin de solitude, en fait. Et donc, effectivement, quand on n'a pas la parole...
Parfois, il faut respecter cette fermeture, vous voulez dire.
Oui, enfin, alors, si elle est... complètement. Et puis, beaucoup s'interroger sur soi. Est-ce que je suis là pour, moi, me soulager auprès de la souffrance des autres? Parce que ça, c'est vraiment... l'immense travers des vocations, des métiers de réparation aussi, où on a tendance des fois à aller se rassurer en fait dans la souffrance de l'autre.
Oui, puis on projette parfois avec un peu de violence sa propre bonne volonté.
Exactement, c'est-à-dire qu'on va faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous-mêmes si on imaginait être dans cette situation. Enfin, en fait, le discernement se fait par imaginaire, et le discernement par imaginaire est toujours très dangereux en fait, parce qu'on met toujours plus de soi que ce qu'on est capable d'accueillir l'autre avec l'imaginaire. Et donc là, pour moi, c'était vraiment un travail de présence, en fait.
Et parfois, de vous laisser surprendre par l'obstacle, par le négatif chez autrui, qui peut se laisser surprendre, c'est déjà une manière de le lui renvoyer, enfin, de lui faire sentir que...
Ouais, et puis de formuler... Moi, j'ai été stupéfaite de ce que formulait mon sentiment d'impuissance... puisse ouvrir de telles portes, en fait. C'est-à-dire que l'impuissance vécue, allez, je pose les armes.
Là, assumer
je
me sens... ses propres limites.
C'est ça. Là, vraiment, je me sens totalement impuissante. En fait, cet aveu d'impuissance contenait une puissance relationnelle extraordinaire. Ça a été pour moi des retournements de situation extrêmement étonnants et dont je suis encore aujourd'hui très reconnaissante. C'est... comme finalement, on arrive en force quand on est en santé, en plus, hein, quand on est...
Dans une illusion de toute puissance.
Voilà, on arrive en toute puissance, on arrive en force, on veut être une force de proposition, on veut avoir une solution, on veut... Voilà, bon.
On n'arrive pas à admettre la faiblesse de l'autre.
Non,
donc, c'est très difficile.
Voilà, alors soit vous arrivez en armure et puis il ne se passe rien, puis vous gardez l'armure, soit en fait vous voyez l'armure tomber petit à petit, puis vous vous retrouvez face à cette espèce de nudité originelle et qui nous est commu, en fait, face à cette vulnérabilité intrinsèque à l'humain, et que pour ma part je ne tiens pas à réduire absolument, parce qu'elle a été dans ma vie en fait un vecteur de rencontres, et de rencontres à un niveau de profondeur inouï, et ça de ça je n'aimerais pas devoir me priver.
Alors Marion Muller-Collard, on prolongera la conversation en entrant aussi dans vos modes d'écriture qui prennent des formes diverses de propositions théoriques, d'écriture de poétique et aussi romanesque. Mais là, vous nous proposez aussi une chanson, celle d'Alain Leprest, c'est peut-être.
C'est peut-être Mozart. Le gosse qui tambourine des deux poings sur le bazar des batteries de cuisine. Jamais on le saura. L'autocar du collège passe pas par opéra, râpé pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui recompte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure un torchon dans les bras. Se torcher le cœur. C'est peut-être Grand Jacques, le petit au rire bête qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes.
France Culture, matière à penser, toujours avec vous, Marion Muller-Collard, écrivaine et théologienne. Donc vous avez voulu qu'on entende Alain Leprest, oui. C'est peut-être, et vous allez nous dire pourquoi, comment ça se relie aussi à vos questions, vos propositions fondamentales dans vos écrits et votre vie.
Oui, merci pour cette liberté d'amener avec soi un morceau comme ça, qui en tout cas pour moi m'habite depuis longtemps. Et il y a quelque chose qui me dérange en fait dans ce morceau de musique.
Décidément, et le dérangement, c'est votre élément.
Ouais, j'ai repensé après, j'ai choisi spontanément, je me disais, il y a quand même quelque chose avec quoi je suis pas tout à fait d'accord dans ce morceau, c'est cette espèce de fantasme d'un génie caché qui pourrait pas s'exprimer à travers à l'intérieur d'un enfant comme ça, qui serait peut-être Mozart, peut-être Van Gogh, peut-être Colette, peut-être Jésus même, dit-il encore plus tard.
C'est ça le sens de ces mots. Donc c'est dans chaque être, il y a peut-être.
Oui, c'est ça. Alors si ce peut-être est à comprendre comme une probabilité, ça ne m'intéresse pas en fait. La probabilité de tomber sur un Mozart dans la rue, je m'en fiche totalement en fait, parce que Mozart ne m'est pas beaucoup plus indispensable, je crois, que le monsieur qui sera là et qui ne sera pas Mozart, et c'est très bien qu'il ne le soit pas. Si c'est un peut-être de potentialité et qui nous invite à regarder l'autre dans tout ce qu'il a, tout ce qui est enclos en lui, tout ce qui peut s'exprimer, tout ce qui pourrait se dire en fait, et de comprendre que cette potentialité nous convoque aussi dans notre responsabilité de la laisser s'exprimer, soit à travers l'éducation, mais aussi à travers simplement la rencontre. Alors cette potentialité-là, oui, c'est pour moi quelque chose d'essentiel.
C'est très beau ce que vous venez de dire. Ça me rappelle une réaction que j'ai toujours eue. Là, je m'exprime à titre personnel face à une phrase à la fois très belle et qui m'a toujours beaucoup choquée. C'est Mozart qu'on assassine. Quand on dit qu'il y a qu'on tue des petits enfants dans des massacres, on dit c'est peut-être Mozart qu'on assassine. Et j'ai trouvé toujours quelque chose de scandaleux dans l'idée, si on tuait Mozart ou Einstein, ce serait très grave. Mais tous les autres petits enfants, s'en fiche. Alors c'est ce que vous venez de dire. Si tous les petits enfants sont des Mozart, quoi qu'ils deviennent, même s'ils n'écrivent jamais une note de musique, alors oui, cette phrase a du sens. Mais s'il faut préserver, sélectionner les petits Mozart, ça devient de nous. On est solidaire du crime qu'on prétend dénoncer.
Exactement. Bah, je suis tout à fait d'accord avec vous, Frédéric Worms. C'est vraiment voilà. Puis c'est aussi cette espèce de culture très franco-française de mettre sur un piédestal les artistes comme si c'était des hommes augmentés, en fait, des espèces de sur-hommes. Et ça, je crois que c'est un mythe dont il faut absolument se défaire. C'est-à-dire, chacun a trouvé sa place, en fait. Et alors, ça peut paraître très politiquement correct de le dire, mais je le dis pour des raisons de... C'est-à-dire que pour moi, la vie ne ferait pas sens si maintenant on m'expliquait que dans l'humanité, il valait mieux être écrivain que boulanger, voyez-vous.
Donc... Bien sûr, et ça ne veut pas dire que tout le monde peut être Mozart non plus, et ça ne veut pas dire que Mozart n'est pas quelque chose d'unique et d'extraordinaire.
Non, mais tout le monde ne peut pas non plus faire un aussi bon pain que mon boulanger. Et je pense vraiment que cette potentialité-là, le luxe suprême dans la vie, c'est de pouvoir exprimer sa singularité jusqu'à ce qu'elle puisse aussi s'exprimer dans nos vies professionnelles et publiques. C'est un luxe inouï. Et en même temps, c'est le désir de tout éducateur, en fait, que de conduire cet être en puissance vers l'endroit où il prendra sa place, sa juste place. Voilà, pas toute la place, mais vraiment sa place. Mmh. Et ça, pour moi, c'est un... Oui, c'est un souci important, oui.
Comment est-ce que vous décririez la recherche parfois de cette relation, même quand elle paraît impossible, même dans des épreuves qui semblent la rendre impossible? Il y a un livre de vous que je n'ai pas encore eu le temps de lire, qui paraîtra plus tard en 2018, un roman intitulé Le jour ou la durance, où il s'agit d'une relation presque impossible, avec un enfant presque incapable en apparence de relation, et dans le deuil de cette relation presque impossible, on s'aperçoit qu'elle a eu lieu finalement.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est le traitement de ce roman, c'est vraiment comment la mort est l'ultime révélatrice de ce qu'a été la présence de quelqu'un. Donc effectivement, le roman commence à la mort de ce
jeune
homme.
Parfois, on peut s'en apercevoir avant quand même.
Je sais pas si on peut prendre totalement la mesure, en fait. Je suis pas sûre.
Il y a d'autres séparations quand on interrompra cette conversation. Moi, je suis sûre que je me souviendrai de votre présence. Et pourtant, vous serez encore vivante ailleurs.
Vous n'allez pas attendre de m'enterrer, c'est ça, pour vous dire qu'on avait passé un bon moment.
Absolument,
ouais. Je vous remercie, Frédéric Wons. C'est vraiment gentil.
J'espère que vous en ferez autant, Marion Muller.
Tout à fait. J'en ai bien l'intention. Non, certes, vous avez raison. Cependant, je pense, notamment dans les relations intimes, que quelque chose du manque, en fait, est l'ultime révélateur en creux.
Le manque, bien sûr.
Voilà, en creux de ce qu'a été... voilà. En l'occurrence, là, c'est la mort. Mmh. Allez, je vous donne raison, ça pourrait être une séparation, mais là, c'est carrément la mort, c'est la mort d'un fils, et donc le roman s'ouvre, en fait, sur la mort de Bastien, avec cette particularité de ce jeune homme qui a une trentaine d'années au moment de son décès, mais qui est simplement quelqu'un dont sa mère pourrait finalement croire qu'il n'a jamais vraiment existé.
Parce qu'il a un handicap très lourd.
Voilà, il est né sans pouvoir et sans avoir d'avenir d'humain tel qu'on l'entend, c'est-à-dire sans parler, sans se nourrir seul, sans même adresser de regard, en fait. Et du coup, cette mère se protège derrière l'idée que finalement son fils est né dans un cercueil et que ça n'est jamais que son deuxième enterrement, quoi. Et elle va être surprise, en fait, elle va être saisie dans les jours qui vont suivre la mort de Bastien, de vivre finalement le deuil banal de quelqu'un à qui cet enfant manque, en fait.
Elle le savait avant, le deuil vient de lui réapprendre quelque chose.
Bien sûr, il y a quelque chose d'un mécanisme de défense chez cette femme qui a en fait été tout entièrement mobilisée par la vie matérielle, par la nécessité. C'est-à-dire que aussi élever un enfant lourdement handicapé, c'est être absorbé par la nécessité. Et cette femme, en fait, s'est abandonnée à la nécessité aussi pour ne pas interroger là où Bastien venait la chercher, justement. Et cette question, pour moi, c'était derrière aussi, qu'est-ce que ça signifie être un être humain ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut remplir comme case ? Qu'est-ce qu'il faut cocher, en fait, comme case pour dire « je suis un être humain » ou « tu es un être humain » ?
Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait passer par des situations si extrêmes et aussi par l'écriture romanesque pour arriver là ? Quelle est l'obligation que vous-même vous avez ressentie en tant que théologienne, mais aussi, je dirais, philosophe ou écrivaine, l'obligation que vous avez ressentie d'employer ce détour, ce double détour à la fois de l'écriture romanesque et de cette expérience extrême par certains côtés, pour décrire ce que vous avez envie de généraliser. Vous dites, voilà ce qui se passe entre nous à cette table, dans la rue à tout moment, avec nos enfants, avec nos amis, c'est aussi ça. Donc, mais pourquoi fallait-il ce détour ?
Mais c'est pas. Alors déjà, ce serait ni une obligation, ni un détour. En fait, c'est un espèce d'instinct. C'est-à-dire que quand j'écris quelque chose de l'ordre de la fiction, je suis dans un espèce d'état d'hypnose. Et là, je vous en parle parce que ce roman, j'ai fini de l'écrire il y a déjà maintenant quelques mois.
Sinon, vous ne pourriez pas en parler.
Voilà, donc je commence à y réfléchir, à être dans la réflexion, en fait. Mais dans le temps de l'écriture, je ne suis pas du tout dans la réflexion. D'ailleurs, je suis très jalouse de mes personnages. Je ne les partage pas, je n'en parle pas. Je veux que personne d'autre que moi les connaisse. D'ailleurs, quand tout d'un coup, mon éditeur m'a dit « je le prends », j'ai pleuré pendant 2 semaines, en fait, de séparation, justement.
Vous l'aviez aussi vécu comme un « il vous le
mais
prend,
oui,
il vous
il
le prend,
prend. ».
Vous étiez à la fois très heureuse,
il
en même temps qu'il l'arrache.
C'est ça. Exactement. Il me le prend. Il me prend ces personnages que j'ai... Ça peut paraître totalement étonnant, mais c'est un espèce un peu de syndrome de Pinocchio. C'est-à-dire, au début, vous avez l'impression que c'est vous qui tenez les ficelles. Et puis, tout d'un coup, ce que vous avez cru être votre marionnette, ce personnage de fiction, en fait, commence à se mouvoir dans une espèce d'autonomie complètement étonnante. Alors, ça paraît un petit peu délirant de dire ça, ou peut-être un petit peu trop lyrique, mais en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, pour moi, Bastien, c'était ce peut-être, en fait. Mais ça, je vous le dis à contre-temps, c'était ce peut-être. Et d'ailleurs, à un moment donné, sa mère entend, en fait, cette chanson pendant que son fils est encore vivant, et entendant cette chanson, elle se retourne, elle regarde Bastien dans son fauteuil immobile, immuable, et elle se dit peut-être.
Voilà, de nouveau, elle oscille, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est peut-être Mozart, mais alors ça peut devenir très déstabilisant parce qu'il n'écrira jamais de concerto, mais en même temps, il y a Mozart aussi.
C'est pas tant peut-être Mozart, c'est peut-être que derrière, en fait, se trouve quelqu'un qui est vraiment un être humain. Et cette question de l'humain, je m'en suis rendu compte en partageant tous ces mois avec Bastien et cette femme, cette mère, en fait, qui le perd. Cette question de l'humain, pour moi, elle va très loin, c'est-à-dire de me dire, effectivement, c'est troublant de dire c'est un être humain alors qu'il n'a pas la parole, alors qu'il n'a pas le regard, alors qu'il n'a pas le rire, alors qu'il n'a pas la connivence qu'on a, vous et moi, là, dans cette conversation. Mais par contre, il mobilise l'humanité de celui qui l'approche. Et l'histoire de pour moi, être humain, c'est à partir du moment, compte tenu qu'on appartient à la même espèce, est humain toute personne qui mobilise l'humanité de celui qui vient à sa rencontre. Et pour moi, la dignité, elle se situe là, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de questions de dignité dans les temps qui courent.
Marion Müller-Köhler, voilà. Mais en même temps, cette humanité qui est requise par l'autre, il faut que quelqu'un l'ait mise en nous. Est-ce que tout le monde est aussi humain avec tout le monde? Est-ce qu'il ne faut pas que vous ayez été vous-même ou cette mère qui se dévoue pour cet enfant? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle ait été elle-même l'enfant d'une autre mère? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une transmission de l'humain dans une relation et qui peut aussi ne pas avoir lieu? Il y a aussi de la violence, des conditions qui font que cette humanité n'est pas toujours possible, est précaire. Est-ce qu'elle est garantie? Est-ce qu'elle n'est pas fragile, justement, comme votre intranquillité?
Oui, j'entends ce que vous dites, Frédéric. Ce serait...
Avec aussi des conditions politiques, d'ailleurs, comme le disait Hannah Arendt, que vous citiez tout à l'heure.
Bien sûr, enfin, je veux dire... Partons du principe qu'il n'y a pas de méthode. Hein. Voilà, donc effectivement...
Très bonne méthode.
Oui, tout à fait. Ça, on en fera une méthode. Voilà, effectivement, il y a tout est voué à la fragilité, à l'aléatoire aussi. Moi, étonnamment, j'arrive à être croyante et à continuer à croire aussi au sort, c'est-à-dire à ce qui relève, en tout cas, de là où je me tiens, de quelque chose à quoi il n'est pas possible de donner un sens, du moins factuel. Donc cette fragilité, bien sûr, mais ce qui est épatant pour moi dans l'histoire de Bastien, c'est que cet être totalement improductif qui va être voué entièrement à la dépendance et au bon vouloir d'une famille ou d'une institution ou d'une société qui va accepter de prendre à sa charge quelqu'un...
Accepter ou pas, certaines sociétés refusent encore, malheureusement.
Accepter ou pas... Effectivement, en tout cas là, de prendre à sa charge quelqu'un qui ne produira absolument rien en termes matériels, quoi, en termes de travail, évidemment. Mais je pense que sa participation au monde est énorme. Et c'est ce que va révéler d'ailleurs sa disparition. C'est tout ce que ce jeune homme, en fait, a suscité, a provoqué. Et ça, moi, ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup aussi dans la question de la vieillesse. C'est-à-dire quand on voit cette immense difficulté aujourd'hui à vieillir parce qu'on vit dans une société qui est ultra performante et qui en tout cas met la performance et la question de la productivité au cœur de son système, très bien. Donc ça crée des dépressions terribles chez les personnes âgées qui ont l'impression d'être inutiles, d'être des poids, etc. Mais en fait, ils viennent justement, ils sont en fait créateurs d'une réponse de notre part ou d'une non-réponse. Le risque
encore
est là.
Encore faut-il parvenir à les voir comme ça, Marion Müller-Köhler. J'insiste un tout petit peu parce que j'ai l'impression quand vous dites il n'y a pas de méthode, il y en a quand même une. On pourrait décrire des conditions sociales, politiques, éthiques de tout ça. Vous-même, j'ai l'impression quand même qu'il y a comme condition de rendre cet accès possible à ces êtres qui ensuite nous rendent, effectivement, redeviennent ce qu'ils sont, des êtres humains, nous rendent le monde. Il y a des conditions qui, pour vous, relèvent... Est-ce qu'il faut appeler ça des exercices spirituels? Je ne sais pas, mais vous parlez beaucoup de spiritualité. Vous avez écrit aussi quelque chose comme un poème, le plein silence, qui est un très beau texte poétique. Je me suis fait prendre un peu, d'ailleurs, c'est un texte où... Vous vous mettez en situation d'exercice, justement, d'exercice d'un art martial, avec un maître que moi, j'ai pris au sérieux comme étant un maître d'un art martial. Et peut-être que c'est de quelqu'un d'autre qu'il s'agit, mais ce que je veux dire, c'est certains vont donner des conditions sociales, politiques, à cet accès à l'autre. Vous, c'est des conditions pratiques spirituelles, ce que certains ont appelé des exercices spirituels.
Ouais.
Il faut pratiquer, ou en tout cas cet aller-retour entre soi-même et le monde est la condition pour les rencontres, pour vous.
Oui, et puis peut-être, puisque vous évoquez ce texte, alors de pratiquer quelque chose de l'ordre de la poésie.
Alors justement, la poésie,
en fait,
quel lien entre le contenu de l'exercice spirituel, et c'est pas sa forme, mais cette écriture qu'il prend chez vous.
Mais pour moi, la poésie, c'est peut-être la bonne réponse à la question de la méthode. C'est-à-dire, c'est d'être dans une langue, en fait. Et une langue, c'est pas une méthode. Il y a une grammaire, mais c'est plus qu'une grammaire, en fait. Et cet effet que produit la langue, cet effet que produit une conversation, je ne sais pas encore quel est le mot suivant que je vais dire, et vous ne savez pas non plus, et on est dans cette hésitation, enfin, il y a quelque chose de la danse, presque. On veille à pas se marcher sur les pieds. Enfin, ouais. Il y a quelque chose de la poésie là-dedans, et pour moi, la poésie a toujours à voir avec ce débordement, en fait, ce débordement de soi.
Alors, cette poésie que vous appelez le plein silence, c'est donc un récit en vers d'une série d'exercices d'un art martial improbable qui vous reconduit à vous-même.
Oui, mais c'est
pourquoi,
en fait l'art martial.
Ça s'est imposé l'écriture en vers, l'écriture poétique.
Oui, ça c'est. Oui, c'était. Disons que là, j'étais vraiment à la source du pur sensible. J'ai vraiment pas voulu construire quelque chose. J'ai pas été dans un travail. C'est pas le fruit d'un travail. C'est vraiment le fruit d'une parole éruptive comme ça, liée à cette expérience d'une retraite de jeûne et de silence où je me suis retrouvée.
Que vous avez vraiment faite.
Que j'ai vraiment faite et où je me suis retrouvée pendant 7 jours à ni manger ni parler et du coup à être vraiment confrontée à cette question de la grâce seule. C'est-à-dire je ne produis rien, je suis vacante. En plus de ça, je réserve un espace totalement vide, parce qu'on le sent, le vide du jeûne. Enfin, je veux dire, physiquement, ça devient l'allégorie aussi de cet espace réservé du vide dont je parlais.
Dans le corps.
Dont je parlais tout à l'heure, dans le corps, ouais. Et vous êtes mobilisé par ce vide. Et est-ce supportable ou est-ce insupportable?
Est-ce que ça, vous l'appelleriez un exercice spirituel, Marion Muller-Collin?
Oui, un exercice existentiel. Alors, je sais pas, spirituel, c'est toujours un petit peu embêtant, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui...
Vous utilisez beaucoup ce mot spirituel et politique, mais d'ailleurs, de façon très, très, très prudente, j'allais dire.
Mais prudente, parce que je ne voudrais pas que le mot de spirituel soit un espèce de mot fourre-tout dans lequel on place tout ce qu'on n'ose plus nommer religion, en fait. Mais peut-être que s'il faut définir les termes, et c'est toujours bien, Frédéric Borms, de définir les termes, je pense que c'est
ça
pas
ça permet de discuter aussi. Discuter, c'est en effet la surprise, mais c'est aussi des repères, quand même.
Voilà. Derrière religion, j'entends toute la dimension culturelle qui va avec... Voilà.
Une sorte d'institution.
Voilà, une institutionnalisation de croyances. D'ailleurs, spirituel, pour moi, c'est ce que Paul Tillich, justement, je refais référence à lui, appelle la foi sans objet. En fait, c'est un moteur, et alors, du coup, c'est vraiment supra-confessionnel. Ça peut pas être confisqué par un système religieux. Alors, moi, il se trouve que, pour autant, j'ai beaucoup...
Vous êtes vraiment une lectrice des évangiles, Marion Muller-Collard. Je sais que vous me parliez de Bergson à propos de votre roman Apparaître. Oui. Mais lui aussi distinguait la parole ouverte et les religions closes, parfois.
Oui. Mais sans pour autant aller dans cette espèce de syncrétisme contemporain, là, on a l'impression d'être dans un espèce de marché du spirituel où notre caddie un peu de
bouddhisme.
Le spirituel,
pour vous, doit faire ses preuves. Il faut qu'il change un peu le monde. Il faut qu'il intervienne.
Non, parce que je crois pas même qu'il puisse y avoir de preuves, si vous voulez. Je veux pas être embarrassée par cette obligation de résultat. Je l'entends tellement, en fait, cette obligation de résultat, que je la veux pas, moi, dans la vie spirituelle. Je veux pas être dans l'évaluation. Mon Dieu, qu'on s'en sorte.
Je parlais pas de résultat, mais d'attestation dans l'acte, en quelque sorte.
Non, c'est pas
même
ça. C'est plus une espèce de défiance par rapport à cette mode, cette mondialisation qui fait qu'en fait, on a tendance à se déraciner, à aller chercher à l'autre bout du monde des choses qu'on pourra trouver dans sa propre confession. Moi, je suis une piètre prosélyte. Le prosélytisme est quelque chose qui m'est totalement étranger, mais surtout parce que je crois que chacun doit forer ses propres racines, si vous voulez. Pour rien au monde, je voudrais faire changer de racine la personne qui est en face de moi. Et je suis convaincue qu'en fait, en allant en fait à la cime de ce particulier qui va être votre propre culture ou qui sera la mienne, on va se retrouver c'est cette phrase de Proust, quoi, la cime du particulier éclôt le général. Et je pense que c'est aussi vrai dans une pratique d'un culte aussi pointu soit-elle, aussi institutionnalisée soit-elle, quand on l'aborde dans un esprit d'universalité, quoi.
Tous les arbres communiquent par le haut et par le bas aussi.
Par le bas aussi, je pense, ouais.
Merci beaucoup, Marion Muller-Collin.
Mais c'est moi qui vous remercie, Frédéric Worms.
Matière à penser, Marion Muller-Collard, Delphine Baudet, Céline Leclerc, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms.